En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Lors de la séance du 13 novembre 2006 de l'Académie des sciences morales et politiques, le premier président de la Cour de cassation, Guy Canivet, faisait une communication sur le thème « Vision prospective de la Cour de cassation ». Retrouvons-le en séance.
L'avenir de la Cour de cassation est-il prévisible ? Peut-on en avoir une vision prospective ? N'est-il pas arrogant, impudent ou imprudent de prétendre percevoir et davantage encore l'inspirer. Le sujet est ambitieux et très certainement téméraire, celui qui prétend le traiter. Devant un auditoire aussi prestigieux, l'exercice présente de multiples risques. Celui de l'indifférence me semble le plus grave. Historiens et sociologues du phénomène bureaucratique savent que les institutions sont en devenir. Elles ont un passé et un futur. Elles évoluent au gré des facteurs endogènes, d'influences externes, de relations de pouvoir, sinon, et pourquoi pas, de l'action de leur chef. Et si diriger est imposer une orientation stratégique, faut-il encore la connaître et la désigner ? Autrement dit, en avoir une perception, sinon une anticipation politique ? Qu'elle soit progressive ou non, elle existe en tout cas, et n'est pas sans incidence, même si elle est conservatrice, voire immobiliste. Qu'est-il finalement de plus dangereux ? N'être pas conscient des lignes de mouvement ? Les connaître ou les déterminer, mais les taire, au risque de se tromper en secret ? Assurément, la responsabilité commande dans nos élaveux. Elle oblige à énoncer son dessein institutionnel, ne serait-ce que pour l'ouvrir à la discussion. Pour Gaston Berger, inventeur du concept, la prospective ne cherche pas à devancer le futur dans les lignes du présent, dans le modèle du présent. Elle cherche à devancer les styles de conduite inventés à partir d'un schéma d'avenir. Et elle se dispose à instaurer les conditions qui pourraient les favoriser s'ils contribuent à un réel progrès. Demain ne sera pas comme hier, il est nouveau. C'est donc à tracer les lignes de progrès de la Cour de cassation vers un monde nouveau qu'il faut s'essayer. Comme il en est de toutes les institutions, la trajectoire de la Cour de cassation trouve son point de lancement dans l'histoire, histoire que vous avez rappelée. Aussi forte qu'en soit l'imagination, le futur s'arrime à la rétrospective, laquelle commande un rappel retour sur la progression de la Cour, au moins depuis son origine moderne. Le tribunal de cassation en vend d'en discerner les prolongements à partir desquels se dégage dans le champ des possibles une vision prospective de la Cour de cassation. Ce que nous voyons advenir advient, mais il pourrait autrement advenir, disait Montaigne. D'un point de vue historique, la Cour de cassation a évolué d'une mission volontairement réduite d'assistance à la loi, strictement assignée par le constituant révolutionnaire, vers des fonctions jurisprudentielles, puis juridictionnelles conquises au XIXe siècle. L'appropriation du pouvoir d'interpréter la loi et de juger s'est accompagnée au siècle suivant d'une dérive. Dérive qui a affecté la nature même de la Cour de cassation en provoquant une durable crise de son fonctionnement. Juridiction suprême de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation est unique, ainsi que le proclame le Code de l'organisation judiciaire. Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. Elle est, vous l'avez dit, continuatrice d'une section du Conseil des rois, le Conseil des partis, qui examinait les recours formés, notamment contre les arrêts des parlements en forme de justice retenue. En deux siècles, le tribunal devenu cour de cassation par le Sénat consul du 28 Florial en 12 a transcendé la place qui lui était originellement assignée dans l'organisation judiciaire. Cette évolution est caractérisée par une extension importante de son rôle au sommet de l'appareil juridictionnel, avec corrélativement une augmentation considérable de son activité. Instituée pour veiller au respect de la loi par les juges, dans un système de stricte séparation des pouvoirs à la Montesquieu, le tribunal de cassation était établi auprès du corps législatif afin d'unifier l'application du droit écrit, unification dans la seule interprétation du législateur par le référé législatif, et de sanctionner les empiétements du pouvoir judiciaire dont l'ancien régime avait fourni de mains exemples. De ce fait, il était tout à la fois privé du pouvoir d'interprétation, conservé par le législateur, et de l'office de jugement, dépourvu de la moindre possibilité de s'immiscer dans l'appréciation du fait, réservé au pouvoir souverain des juges dits du fond. Par glissements successifs, la stérilisation de la juridiction de cassation n'a toutefois pas survécu à la période révolutionnaire, de sorte que, s'affranchissant du carcan législatif, la Cour a progressé tout au long du XIXe siècle vers une émancipation marquant l'âge d'or de la jurisprudence. Alors put s'épanouir, par une succession de grands arrêts, sa fonction interprétative, on dit normative, selon des techniques contextuelles, de plus en plus distantes du sens littéral de la loi et de la volonté de son auteur, pour finalement imposer la jurisprudence comme source de droit gouvernant de manière autonome des pans importants du domaine juridique, comme la responsabilité ou le contrat. Fondée sur un contrôle exigeant de la discipline du jugement, le mouvement d'insertion de la Cour de cassation dans le mécanisme juridictionnel fut moins apparent, mais tout aussi puissant. De recours exceptionnels portant sur la légalité des décisions de justice, le pourvoi s'est transformé en un contrôle du bien jugé compris non seulement comme une exacte interprétation de la loi de procédure, mais aussi comme la mise en œuvre correcte d'une méthode de jugement normalisée par la jurisprudence. En même temps, s'est répandu sous l'influence européenne le dogme du droit au juge dans lequel la Cour de Strasbourg a compris la Cour de cassation. Il s'ensuit que dès lors que la Cour existe, toute personne est en droit de lui faire vérifier la légalité d'une décision rendue en dernier ressort et qui lui ferait grief. De ce fait, le contrôle de légalité constitue une voie de recours à épuiser avant de faire sanctionner l'État par la Cour européenne des droits de l'homme pour une violation de la Convention, tandis que dans l'ordre communautaire, par un raisonnement semblable, si l'on entend faire poser une question d'interprétation des traités, on doit poursuivre le procès jusqu'à la Cour de cassation, seule tenue, en tant que juridiction statuant sans recours interne, de saisir la Cour de Luxembourg d'une demande préjudicielle. Si radical fut le phénomène de banalisation du recours en cassation, qu'il modifia profondément les méthodes et la structure de la Cour et provoqua une dérive institutionnelle de plus d'un demi-siècle. Par un enchaînement perturbateur, la croissance incontrôlée du contentieux de cassation fut tout à la fois la conséquence d'une dénaturation de la Cour et la cause de graves désordres dans ses pratiques. Le développement simultané d'une jurisprudence interprétative foisonnante, variable dans le temps, et d'un contrôle pointilleux de la méthode du jugement a peu à peu provoqué un nombre considérable de pourvois, d'autant plus qu'un taux de cassation important, plus de 20% des arrêts examinés en matière civile, et en certains domaines, le caractère aléatoire des solutions, ajouté à un effet dilatoire des délais de jugement, incitait les plaideurs à tenter leur chance. Participant au mécanisme contentieux, la Cour de cassation en a subi les avatars, une progression spectaculaire dans la seconde moitié du XXe siècle, suivie d'une lente récession dans les 10 dernières années. Ainsi, du mois d'avril 1791 au mois d'avril 1792, première année de fonctionnement du tribunal de cassation, le nombre de pourvois a été de 550. Il était en 2001, point culminant du phénomène, de 32 500. Accompagnant l'invasion contentieuse sans chercher à l'endiguer, la politique judiciaire s'est laissée aller à la suivre avec retard, en augmentant de temps à autre les moyens de la Cour. Conçue et organisée à l'origine en trois chambres pour un nombre limité de 50 conseillers, elle en comprend aujourd'hui près de 200, si on y inclut les conseillers référendaires, corps de juges plus jeunes créés en 1967. Dans leur ensemble, ces juges sont maintenant répartis en 6 chambres, une chambre criminelle et 5 chambres civiles, elles-mêmes divisées en sections, en sous-sections, et statuant désormais, pour la majorité des affaires, en des formations réduites à 3 membres. Enfin, si la Cour, au moins en matière civile, a connu une phase de sélection préalable et obligatoire des pourvois opérés par la Chambre des requêtes, la suppression de celle-ci en 1947 a eu pour conséquence un accès incontrôlé, auquel il n'a été mis fin qu'en 2002 par l'instauration bien tardive d'une procédure de non-admission reprise de celle du Conseil d'État. Ainsi provoqué, le phénomène inflationniste s'est de lui-même renforcé. Le nombre de décisions rendues a brouillé la jurisprudence. La multiplication des formations de jugement accrut les risques d'incohérence. Le processus de production de masse et l'allègement des méthodes d'examen fragilisaient les décisions, l'ensemble entraînant tout à la fois une perte d'autorité et une incertitude juridique propice à la multiplication des recours. Et sans qu'on l'ait spécialement voulu, réfléchi ni programmé, d'organes à vocation limitée placés près du corps législatif dans le seul but d'unifier l'interprétation de la loi, la Cour s'est transformée en une juridiction traitant d'un contentieux considérable selon des méthodes de production de masse plus ou moins rationalisées. Elle a de ce fait perdu de vue sa mission principale d'interprétation unificatrice de la loi. Perçue comme intolérable, la situation a provoqué à partir des années 60 la création de multiples commissions, groupes de réflexion et études, toutes destinées à proposer des solutions de redressement. Si la plupart ont justement posé le diagnostic, aucune n'est parvenue à des mesures autres que d'expédients, mesures en tout cas impropres à inverser la tendance, éloignant peu à peu la Cour de sa fonction première. La situation était devenue si critique qu'en 1995, on s'en souvient, excédé par la paralysie, le procureur général de l'époque, lors d'une audience de début d'année judiciaire, réduisit par provocation son discours à une brève citation latine évoquant l'ignorance passive des soldats romains lors de l'éruption du Vésuve, il jouait aux cartes tandis que le volcan avançait pour les engloutir. Depuis lors, par une prise de conscience salutaire, c'est finalement de l'intérieur que se sont dégagés les objectifs d'une politique d'action à long terme. La Cour proposant d'elle-même une vision prospective partant de la mise en œuvre d'une politique jurisprudentielle, politique réglant la crise, pour ensuite préfigurer ce que l'on osera nommer la gouvernance du système juridictionnel. Il y a une quinzaine d'années, le regretté professeur Bruno Aupetit évoquait le rôle créateur de la Cour de cassation, soulignait le chemin parcouru depuis les deux derniers siècles par la voie de la cassation, devenue de prérogative de justice retenue, comme vous l'avez dit, puis de sentinelle établie pour le maintien des lois, un moyen de régulation de la réalisation judiciaire du droit. Il n'était plus alors question de faire la preuve de l'influence de la jurisprudence, mais de prêter attention aux mécanismes mêmes par lesquels se manifeste sa créativité, interprétation extensive de la loi, participation même à son élaboration et mise en œuvre de normes supérieures. Selon qu'il s'agit d'interpréter la loi ou de contrôler la méthode de jugement, ces mécanismes qui relèvent tout autant de la régulation jurisprudentielle que du contrôle juridictionnel préfigurent à partir de ses missions traditionnelles, normatives et disciplinaires, un rôle modifié de la Cour, une autre image d'elle-même, un rapport différent avec l'institution judiciaire, un changement de posture à l'égard de la loi et des autres pouvoirs. La réflexion sur la politique jurisprudentielle participe de cette prise de conscience du rôle de la jurisprudence. Elle revient à admettre que la Cour de cassation a vocation, par ses décisions, à envisager, et donc à rechercher les moyens les plus utiles de remplir sa mission. Avoir une politique, c'est en effet précisément faire des choix, dégager des priorités et finalement agir. Pour entreprendre une action sur l'institution dans ses relations avec le corps social, il faut discerner les attentes du public et les rapporter aux missions de la Cour. De ce point de vue, la sécurité est une revendication centrale dans l'interprétation de la loi, tandis que la qualité est à coup sûr le défi majeur de la production judiciaire. Sécuriser l'interprétation de la loi, c'est d'abord faire en sorte que, où qu'ils soient, tous ses lecteurs, en particulier les juges, la comprennent et l'appliquent de manière uniforme sous le contrôle d'un régulateur central. Mais c'est aussi assurer la continuité dans le temps de ces interprétations. L'exigence est tout à la fois de cohérence et de constance. Du point de vue de la cohérence interprétative, c'est d'abord poser la question des divergences internes à la Cour. Qu'ils soient accidentels ou délibérés, conjoncturels ou fondamentaux, de tels écarts d'interprétation entre les chambres sont évidemment intolérables. Ils témoignent de la méconnaissance de la mission unificatrice de la Cour, ils sont la négation du principe même de son existence. Elle en fut consciente, et il suffit pour les régler, ce qui est maintenant chose faite, de prévoir les moyens appropriés d'y mettre fin. Un autre stade de la démarche consiste à éviter que des interprétations opposées d'un même texte se propagent dans les juridictions du fond. Il faut pour cela les connaître avant qu'elles ne se révèlent tardivement au gré des pourvois, après le développement étalé dans le temps d'importants foyers de contentieux. La Cour se dote actuellement des moyens d'observation modernes qui lui permettent de discerner dans la masse des arrêts des cours d'appel les points sur lesquels elle doit prioritairement faire porter sa mission interprétative en choisissant dans les affaires pendantes celles qui sont adaptées à une solution rapide. Sécuriser l'interprétation de la loi, c'est encore veiller à ce que, dès leur promulgation ou leur publication, les textes soient immédiatement appliqués de manière uniforme par l'ensemble des juridictions. À cette fin, ont été mis en place des procédés de liaison avec les tribunaux, aux fins de désamorcer, dès les premiers mois d'application des textes nouveaux, notamment par la procédure d'avis, les poches de contentieux qui mettraient parfois des années à se résorber par l'épuisement des voies de recours. L'ensemble du dispositif a finalement pour objectif de mettre fin à une attitude passive de la Cour, traitant les affaires les unes après les autres, selon des repères chronologiques, et de manière égale, au profit d'une sélection éclairée de ses champs d'intervention prioritaires et des affaires qui justifient une étude approfondie. Comme toute Cour suprême, la Cour de cassation entend désormais maîtriser son agenda. Mais il ne suffit plus désormais d'assurer l'unité du droit national. De nombreux traités internationaux sont d'application directe dans notre système juridique, les principaux, mais non les seuls, étant les traités européens, qu'il s'agisse du droit communautaire ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. De plus en plus saisie de moyens fondés sur ces textes internationaux, la Cour de cassation joue un rôle fondamental de mise en cohérence du droit interne avec le droit international. Là encore, il lui faut observer la jurisprudence des cours européennes pour discerner en quoi elle a une incidence sur le droit interne et quel aménagement elle impose. Les moyens d'action sont en ce cas les mêmes, détecter les incompatibilités et les traiter par préférence en choisissant activement les espèces adéquates. Il est clair que ce travail de mise en conformité, qui place la Cour de cassation en articulation entre le droit international et le droit national, ne se fait pas sans conflit de pouvoir. Conflit de pouvoir avec le législateur lorsqu'elle a prise sur la loi, conflit avec le pouvoir réglementaire lorsqu'est en cause la compatibilité d'un règlement avec une norme internationale. Ces conflits ont atteint leur paroxysme avec la technique des lois de validation, lois qui visent à anéantir une interprétation jurisprudentielle désapprouvée par le Parlement au moyen de dispositions légales immédiatement applicables aux litiges en cours. Initiative aussitôt sanctionnée par la Cour européenne comme une immixtion du législateur, contraire à l'indépendance de la justice dans le processus de jugement. La polémique actuelle sur la juridiction compétente, judiciaire ou administrative, pour apprécier la compatibilité dans une instance prud'homale du dispositif relatif au contrat de nouvelle embauche à une norme internationale édictée par l'Organisation internationale du travail, n'est pas autre chose qu'un conflit de pouvoir entre le gouvernement et l'autorité judiciaire. Cette situation, qui place le juge national aux limites de deux corps de règles qu'il est chargé d'appliquer en donnant primauté au droit international, provoque un bouleversement considérable, sans doute le plus important depuis la fondation de la Cour, dans l'univers juridique et l'organisation judiciaire. Bouleversement considérable en ce qu'il remet en cause la pertinence de la séparation des juridictions administratives et judiciaires et soumet la loi, comme le décret, à un contrôle judiciaire de conventionnalité. En marge de ces évolutions majeures, la politique de sélection active des affaires prioritaires suppose que les moyens de la Cour soient redéployés pour permettre un traitement rapide et en profondeur des questions de droit pertinentes et sensibles, en même temps que sont écartées par des moyens simples, allant jusqu'à la non-admission sans motif des affaires qui ne posent aucune question sérieuse et qui, de ce fait, ne justifient pas que soient exposés en vain les moyens nécessairement comptés que l'État met à la disposition de la justice. Il s'agit en définitive de réguler la fonction juridictionnelle pour mieux remplir la mission jurisprudentielle. Pour donner une idée des enjeux, on relèvera qu'en 2005, 32 600 arrêts ont été rendus, dont seulement 2 000 ont été publiés au bulletin officiel de la Cour, tandis que 400 sont cités à son rapport annuel. C'est à ce dernier chiffre que s'évalue le nombre des arrêts ayant une réelle portée normative. Dans la démarche d'adaptation de la loi aux évolutions économiques et sociales, et pour régler les grandes questions de société non décidées par le législateur, il est utile à la Cour de créer un espace de discussion sur des approches différentes du droit, telles que l'analyse économique, la recherche sociologique, la réflexion fondamentale et la science comparative, afin d'élargir le champ de vision de la Cour. Tel est le but des cycles de conférences organisés en son sein avec de grands partenaires. Telle est aussi la raison de la création d'un corps de conseillers en service extraordinaire, apportant au délibéré l'enrichissement d'une expérience acquise dans des disciplines autres que juridiques ou par l'exercice d'activités dans le monde de l'économie. Lorsque se dégage la perspective d'une nouvelle interprétation de la loi, ayant une portée dépassant le strict rapport des parties, il est tout aussi nécessaire que les groupes d'intérêt concernés puissent s'exprimer. C'est la technique de l'amicus curiae qui, dans le processus de fixation du droit par la jurisprudence, offre la possibilité de considérer les arguments de ceux dont les intérêts sont potentiellement affectés, technique qui permet au passage de renouveler les missions du parquet général de la Cour, parquet général se désignant comme l'instrument privilégié de cette ouverture sur l'environnement économique et social. Il est en effet aujourd'hui indispensable de sortir d'un débat cantonné aux seuls arguments juridiques, arguments juridiques qui souvent se neutralisent, déterminent des solutions opposées et qui, quelquefois même, se succèdent dans le temps avec un même label de conformité légale. Le droit moderne ne trouve plus en lui-même sa propre justification. De la même manière, ainsi que l'a exposé ici même le professeur Basile Marquesinis, sur certaines questions universellement posées dans tous les systèmes juridiques, mettant généralement en jeu des droits fondamentaux, il est indispensable de connaître les solutions dégagées par les grandes cours suprêmes. Ce sont alors les techniques du droit comparé qui sont mobilisées pour éclairer notre juge de cassation et lui fournir les références extérieures, lui faisant aborder ces grandes questions dans une dimension mondiale. À la faveur de ces nouvelles méthodes, la Cour se recentre sur son métier primaire, assuré par l'interprétation l'unité du système juridique, faire en sorte que la loi soit uniformément lue et appliquée, en cohérence avec le droit européen, les conventions internationales, en conformité avec les principes fondamentaux et en harmonie avec une compréhension universelle des grandes questions éthiques, culturelles et de société. L'exigence de sécurité dans l'interprétation de la loi revêt aussi une dimension temporelle. Bien qu'il ne s'agisse finalement que d'assurer la continuité de la jurisprudence, la question est plus difficile qu'il n'y paraît. S'il est envisageable et indispensable d'inciter les juges à plus de constance dans leur interprétation de la loi et de les convaincre de n'en changer qu'en cas de nécessité impérieuse et en connaissance des conséquences du renversement, il est plus difficile de tenir compte des anticipations légitimes fondées sur le sens précédent donné à la loi pour moduler dans le temps l'application des nouvelles règles jurisprudentielles. De récentes affaires révèlent cependant les vives attentes des opérateurs économiques à cet égard, mais ce n'est finalement que dans des cas assez rares que se justifierait l'application différée de solutions innovantes. Ces questions étant actuellement débattues devant la Cour, il est difficile d'en dire davantage. Les solutions sont en tout cas gouvernées tout autant par les impératifs du droit interne que par ceux du droit européen. Qu'il s'agisse de l'exigence de sécurité juridique ou de confiance légitime érigée par l'ordre communautaire en principes généraux du droit ou des règles du procès équitable fixées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Immanquablement, la solution retenue retentira sur la qualité de la méthode contentieuse de règlement des litiges. Investie de la police du jugement, la Cour de cassation procède au stade ultime du processus à un contrôle de la qualité de la justice rendue. Construit comme un instrument critique, le pourvoi rationalise cet examen en conduisant à vérifier tout à la fois la régularité de la procédure et la validité du raisonnement. Individuellement, l'arrêt de cassation est le constat des manquements entachant le jugement au regard de l'un et l'autre de ses griefs, vices de procédure ou fautes logiques. Collectivement, par la jurisprudence tirée de la succession des arrêts de cette nature, se construit une norme de référence du bon jugement. Doit-on s'arrêter là ? La question est porteuse d'enjeux considérables. Sur le plan interne, est à restaurer la confiance dans la justice, à rendre la résolution judiciaire des litiges crédible et opérationnelle, c'est-à-dire finalement assurer l'égalité devant la loi par un accès effectif à un juge qualifié. Dans l'espace européen, dit de liberté, de sécurité et de justice, il s'agit de normaliser la procédure judiciaire pour rendre effective le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice par l'ensemble des États membres de l'Union, ce qui est le point central de la coopération judiciaire européenne, tandis que dans le champ international est à démontrer l'aptitude de notre système juridique et judiciaire à protéger efficacement la circulation de la richesse et à favoriser le développement économique. Prenant en compte ces défis, et dans le dessein de sécuriser le processus judiciaire, la Cour prolonge son action traditionnelle dans deux directions préventives, la formalisation de la méthode de jugement et la mise en œuvre d'une démarche de qualité. Et dans une compréhension progressive de sa mission créatrice de droit, elle doit introduire de nouveaux paramètres dans ses critères d'interprétation et imaginer des procédés propres à rapprocher le droit de la société. Formaliser la méthode, c'est tirer de la jurisprudence sur la discipline du jugement des principes positifs du bien jugé et les proposer au juge dans une démarche incitative et pédagogique visant à éviter les erreurs, à prévenir les défauts de la production judiciaire. Progressivement, s'élabore un corps de normes de référence encadrant la forme et la motivation des jugements. L'objectif est de mettre à la disposition des juges un ensemble de préceptes indicatifs dont le respect place leur décision à l'abri de l'annulation. Annulation très préjudiciable aux plaideurs. Rien n'est plus désespérant que de subir une cassation pour une violation de règles formelles commises par les juges lorsque l'on a raison sur le fond. S'il n'a jamais été pratiqué dans notre espace judiciaire, le procédé n'est pas nouveau. Il consiste dans l'édiction de règles souples, indicatives, d'élaboration des règles de décision de justice. C'est par exemple celui par lequel la Commission européenne établit les lignes directrices d'application du droit communautaire par les juges nationaux, en mettant en perspective les acquis de la jurisprudence. Indiscutablement, il rend plus sûr, plus prévisible et plus transparente la méthode de jugement. Le progrès consiste à le systématiser et l'inclure dans les cycles de formation des juges. Au-delà, il s'agirait d'intéresser les juges eux-mêmes à l'élaboration des bonnes pratiques judiciaires, c'est-à-dire à la création de normes référentielles de comportement dans des situations types, et d'y procéder selon des processus d'élaboration consensuels, inspirés de ceux mis en œuvre par certaines professions, les professions de santé ou du chiffre, par exemple. Le développement de ces pratiques présenterait l'avantage d'informer les usagers sur ce qu'ils sont en droit d'attendre de l'institution judiciaire, et pour les juges, de les inciter à se doter eux-mêmes des règles guidant leurs gestes professionnels ou fondant une déontologie partagée. Le programme vise en définitive à la mise en place au sein de l'institution judiciaire d'une démarche de qualité destinée à assurer le crédit de la justice. La qualité est en effet, selon les indicateurs dont on dispose, fortement revendiquée par le public. Pour autant, la Cour de cassation a-t-elle la légitimité de la conduite d'un tel programme ? Certes, elle n'est pas placée à l'égard de l'institution judiciaire dans un rapport hiérarchique. À la différence de l'ordre juridictionnel administratif et de celui des comptes, on lui dénue tout pouvoir sur l'administration et la gestion des juridictions. En méconnaissance, me semble-t-il, du principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, principe voulu par la Constitution, lequel, pour être effectif, devrait comprendre l'autonomie administrative et la maîtrise des moyens. À l'instar de la révolution judiciaire britannique, c'est en ce sens qu'évoluent tous les systèmes du monde, européens en particulier. De ce refus d'une autorité judiciaire autonome et organisée à partir de la Cour de cassation, peut être tiré un argument positif. À défaut de rapport hiérarchique, la Cour exerce sur l'ordre judiciaire une autorité jurisprudentielle. C'est, me semble-t-il, un concept inexploré de la science administrative qui mériterait d'être précisé. Différent de la subordination bureaucratique, il possède des ressources plus riches, plus subtiles et, en définitive, plus adaptées à l'époque moderne pour réguler le fonctionnement de la justice. Définir des méthodes de jugement par le débat judiciaire, responsabiliser les juges et les conduire à prendre en charge la normalisation de leurs pratiques, comme de leur déontologie, définir de manière participative des principes de comportement connus et approuvés par les professionnels de la justice et par le public, adhérer à un mouvement de sécurisation du droit et à l'efficacité des juridictions pour regagner la confiance est, me semble-t-il, un défi qui mérite d'être relevé. C'est donc la gouvernance de la justice par l'autorité de la Cour de cassation qui dessine le schéma d'avenir. Après en avoir déjà exposé les styles de conduite de la Cour à l'égard des juridictions, il faut, pour terminer, les appliquer à sa propre fonction normative, en y introduisant plus de transparence, de crédibilité, de responsabilité et de contrôle public. L'axe majeur de la rénovation de la fonction jurisprudentielle serait d'affirmer clairement le rôle normatif de la jurisprudence et d'en tirer toutes les conséquences. Il n'est plus réaliste aujourd'hui d'affirmer que le rôle du juge est de dire le droit sans jamais le créer. Le nier, c'est l'autoriser à le faire sans règle, de manière arbitraire et sans soumettre son pouvoir à un contrôle quelconque. On sait que l'application de la loi ne peut exclure l'interprétation. C'est la vision prémonitoire de Portalis, selon laquelle la loi ne peut exister qu'avec l'interprétation qu'en fait la jurisprudence dans un rapport de complémentarité nécessaire. Comme toute Cour suprême, la Cour de cassation remplit un rôle d'adaptation de la loi aux attentes de la société. C'est-à-dire qu'elle place le droit au plus près des données culturelles, économiques et sociales actuelles. Si tel est son rôle, elle doit l'assumer dans la transparence et en soumettre l'exercice à un débat public. Ce qui signifie qu'elle se donne les moyens de comprendre l'objectif du droit dans chacun de ses domaines, de dire ce qu'elle a compris et qu'elle œuvre pour les atteindre. Ce qui lui impose tout à la fois de concilier la nécessité du changement et l'exigence de stabilité, de préserver la cohérence normative du système juridique et d'en respecter les valeurs fondamentales, d'intégrer les limitations institutionnelles de l'autorité judiciaire et de s'y conformer, enfin, de s'en tenir strictement à la perception que la société a du rôle du juge. Certains de ces points ont déjà été abordés. Chacun d'eux mériterait un développement et j'ai déjà été trop long. Je me bornerai pour terminer à citer trois conditions majeures de cette nouvelle vision de la production de la jurisprudence. La première est que la Cour expose explicitement, clairement et complètement les données, valeurs, principes fondamentaux et autres considérations éthiques, sociales, culturelles, économiques, circonstancielles qui font son jugement. C'est une question d'explicitation, donc de motivation. Elle a été si souvent abordée qu'il n'est pas nécessaire d'y insister. L'autorité d'une jurisprudence tient d'abord au raisonnement qui la sous-tend. Si celle de la Cour de cassation entend s'imposer par son autorité juridique et morale dans l'ordre interne comme dans l'ordre international, elle doit compléter son appareil de motivation et y inclure ses raisons déterminantes. Une avance importante a été accomplie avec la publication des travaux préparatoires du conseiller rapporteur. Un long chemin reste encore à faire pour y inclure les considérations masquées qui justifient la solution adoptée. Renouveler la fonction jurisprudentielle supposerait encore que soient clairement et expressément fixées les méthodes d'interprétation de la loi. On sait qu'a été écarté, parce qu'un trop influencé de droit naturel, le livre préliminaire du Code civil, qui en énonçait les principes, et que depuis lors, ces techniques interprétatives sont abandonnées à la prudence, sinon à l'arbitraire des juges. De l'interprétation littérale, issue du strict positivisme légaliste, à des méthodes plus extensives qui peuvent aboutir à des solutions contraires au texte même de la loi. Si la jurisprudence s'érige en normes positives, elle doit indiquer les règles selon lesquelles elle se construit. Enfin, si la jurisprudence s'avoue comme une source de droit, doivent s'instaurer des rapports constructifs entre la Cour et les autres pouvoirs normatifs, législatifs ou réglementaires, non plus sur le mode de la concurrence, de l'opposition ou de l'affrontement, mais sur celui de la coopération active. C'est d'une compréhension harmonieuse des relations des institutions qu'il s'agit. Elle ne se satisfait ni de l'hostilité, encore moins de l'invective qui ruine l'autorité de l'État. Révélatrice des imperfections, des vides ou des inadaptations de la loi au contexte de son application ou de son incompatibilité avec la norme internationale, La jurisprudence devrait être comprise comme un dispositif d'alerte, incitant le pouvoir législatif ou réglementaire à en tirer toutes les conséquences, dans l'intérêt général bien compris, davantage que dans une conception jalouse et stérile de la séparation des pouvoirs. Regarder au loin, c'est accommoder jusqu'au point où s'estompe la vision. C'est à ce lieu focal ultime que j'ai tenté de vous conduire avec l'intuition d'une gouvernance de la justice par l'autorité juridictionnelle. Elle est sans doute encore schématique, incomplète, sans génie, pour toutes ces raisons, elle est critiquable. C'est sans doute que mon regard est myope, est brouillé. On imagine le présent qu'à travers ce que l'on connaît et on ne discerne l'avenir qu'à travers ses propres vues. Avec le recul, l'histoire de la Cour de cassation se perçoit finalement comme une conquête de pouvoir. Elle n'est pas la seule dans ce cas. L'itinéraire de toutes les hautes juridictions, internes et internationales, mériterait d'être revu à la lumière des thèses de Michel Crozier sur la sociologie des organisations. C'est pourquoi je vous livre en ultime remarque cette pensée d'Aaron Barak, un immense juge qui, il y a quelques jours encore, était président de la Cour suprême d'Israël et à qui je dédie ce propos qui l'a largement inspiré. Le juge doit être conscient de son pouvoir ainsi que de ses limites. Dans une démocratie, les pouvoirs conférés au juge sont très importants. Le pouvoir judiciaire, comme n'importe quelle autre forme de pouvoir, peut faire l'objet d'abus. Il faut que le juge comprenne que son pouvoir se limite à son rôle judiciaire proprement dit. Et encore, une autre condition que je considère essentielle par rapport aux magistrats, c'est la confiance du public, c'est-à-dire la confiance dans le respect de la déontologie judiciaire, la confiance accordée aux juges quant au fait qu'ils n'ont pas d'intérêt dans le contentieux et qu'ils ne luttent pas pour leur propre pouvoir, mais pour la protection de la Constitution et de la démocratie. Merci de votre attention.
Vous venez d'entendre Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation. Il s'exprimait en séance du 13 novembre 2006 devant l'Académie des sciences morales et politiques sur le thème « Vision prospective de la Cour de cassation ».